Bien, bonjour tout le monde. Déjà lundi, c'est le 4 novembre. Bienvenue à ce nouvel épisode de Sortie de zone. Avec nous aujourd'hui, Jean-François Tremblay de La Presse.
Salut Mario.
Alexandre Pratt de La Presse également.
Salut Mario.
Et Jérémy Filosa du 98.5.
Salut Mario.
Salut les gars, content de vous revoir. Petite pause d'ambiance avant d'entrer dans le vif des discussions.
C'est gagné par Seguin. Le lancer de Radulov est court. Un lancer bas qui semble avoir été touché par quelqu'un dans l'enclave. Et c'est 1-0. Et l'ancien du Canadien donne les devants aux Stars.
Oui, l'ancien du Canadien Radulov qui a contribué à faire la différence contre l'équipe de Claude Julien qui, incidemment, va diriger un 1200e match en carrière demain contre un autre club qu'il a dirigé, les Bruins de Boston. Les gars, je sais pas par où commencer exactement. La semaine s'est bien déroulée, 3 victoires jusqu'au match de samedi. Est-ce que j'ai le droit de dire que je suis déçu de la performance du Canadien samedi, même si c'est de mauvais ton peut-être quand tu viens d'en gagner 3? Je pense qu'on était plusieurs à s'attendre à une victoire samedi. Donc, j'ose croire que vous êtes déçus un peu. Claude Julien avait l'air d'un gars déçu, mais je trouve qu'encore une fois, il a bien manié le verbe de façon à ne pas faire subir trop ses sautes d'humeur, si humeur négative il y avait à ses joueurs.
Ben, moi, je m'attendais à une défaite. Parce que, écoute, même j'en parlais avec notre patron, Michel Tremblay, puis il m'a dit, je me demande si le Canadien va être capable de poursuivre sa séquence, parce que depuis le début de la saison, même en match préparatoire, les samedis soirs, le Canadien avait gagné tous ses matchs. Mais après deux victoires sur la route, puis j'ai surveillé les comptes Instagram des joueurs un peu vendredi, des gars qui sont allés jouer au golf, des gars qui sont partis au basket. Je me suis dit, ils ont peut-être la tête ailleurs, ils viennent d'en gagner. Écoute, c'est comme là, t'es au bureau, c'est vendredi, là, t'as connu une grosse semaine, t'as tout fait ton travail. Là, il est 3h vendredi, puis là, ça commence déjà à te tenter, à t'en aller. Je m'attendais à cause de cela à un peu, un petit recul dans le match de samedi contre les Stars. Puis les Stars ont fait ce qu'ils avaient à faire, c'est-à-dire, ils ont sorti le papier sablé tôt en première période pour passer le message que ce serait pas facile.
Il avait joué la veille, eux autres. Exact. Les fameux deux matchs en deux soirs, ça les a pas chalé bien.
Au Colorado. Puis là, c'est drôle parce que les questions qu'on posait à l'entraîneur, c'était l'inverse. Ben là, eux autres étaient dans le game parce qu'ils venaient de jouer la veille, fait qu'ils étaient en... Puis les joueurs du Canadien étaient au repos, fait que là, il n'y avait pas la tête au hockey. T'sais, en tout cas, on cherche toujours les solutions, mais...
Comment vous avez vu ça, les gars?
Ouais, personnellement, j'ai pas été surpris, j'ai pas été scandalisé ni outré non plus. J'ai l'impression que si on avait dit aux Canadiens, vous allez en gagner 3, vous allez perdre celle contre Dallas, je suis pas mal sûr que n'importe qui aurait signé en bas de la feuille en disant, bon, ça a beaucoup de bon sens. Je crois que la victoire contre les Golden Knights de Vegas vaut probablement plus dans l'histoire, en tout cas à court terme de cette équipe-là. Une victoire pour Keith Kincaid, une remontée de 2 buts en 3e période. Moi, je pense que comme on dit, là, on va en laisser une aller. Celle de Dallas m'inquiète pas particulièrement.
Comme Claude a dit après le match, Alexandre, d'ailleurs, tu sais, Claude avait pas envie d'en faire un plat, mais non. Il était pas satisfait, là.
Non, il était pas satisfait. Maintenant, prenons ça dans le contexte. Ils ont quand même traversé la veille de Vegas à Dallas. C'est à peu près la moitié des États-Unis d'est en ouest. Les gars étaient fatigués. Même quand on regarde la répartition, là, du temps de jeu, les quatre lignes ont à peu près joué égal. T'sais. Ça veut dire qu'à la fin du match, là, les bons éléments du Canadien manquaient peut-être un petit peu de jambes. Si on voit des joueurs qui sont à sa quatrième ligne avec 14, 15, 16 minutes dans un match, c'est quand même un signe qu'il manque un petit peu d'eau. Là.
Ou que le coach n'était pas content des performances de ses premiers trios.
Ouais, peut-être, mais quand même, là, de façon générale, j'ai trouvé à quelques exceptions près, je pense que Domi a eu une partie moyenne, mais les autres joueurs, c'était quand même correct.
Mais là, couvrir Instagram pour affûter nos analyses, c'est un élément qui ne me passe pas toujours par l'esprit. Jérémy, il va falloir que je me mette là-dessus.
Non, mais on est rendu là.
Non, mais je suis là, mais de là, c'est vrai, j'avais pas fait de lien entre la performance. Moi, c'est-tu le seul lien que je faisais sans avoir vu quelques photos que ce soit, c'est une équipe qui était déjà contente. Et quand t'es pas affamé, quand t'es déjà content, ben t'en feras pas plus.
Mario, je suis d'accord avec toi, mais faut garder en tête que le Canadien était arrivé à Dallas à 4h du matin, je pense, après ça, l'entraînement qui a été annulé. Je veux dire, à un moment donné, c'est un long et lourd voyage, et je pense que... Je reviens sur le match contre les Golden Knights de Vegas, j'ai l'impression a fatigué, a drainé émotivement beaucoup les joueurs qui devaient ensuite arriver à 4h du matin et pas dormir, je veux dire.
C'est la condition humaine. Puis probablement
dit exactement ces mots. C'est des humains, c'est pas des machines.
Mais ça, je le comprends.
Là-dessus, moi, je suis prêt à leur laisser un passe-droit pour ça.
Mais ça, c'est son discours public, là.
Mais c'est le discours dans la vraie vie aussi.
Mais t'sais, même Montgomery l'a dit à Dallas, il dit, hey, nous, on voyage, on est sur la route depuis le début de l'année. On a un petit peu parlé vendredi, là, t'sais, on a eu un seul entraînement à 18 Exactement. Jours. Mais il y a des équipes là, qui sont dans le fond du classement présentement. Quand tu regardes ces équipes-là puis tu regardes le kilométrage qu'elles font, ben ça fait partie des équipes qui voyagent aussi le plus dans la Ligue nationale. Je vais mettre cela sous le compte de la fatigue.
Hey, dire que
unanimité, a... hein, Jérémy, donc?
Ouais, je pense
Instagram et fatigue, parfait. Mais... J'ai donné ce que je pouvais dans ce débat-là, les gars. Non, mais j'ai tout mis ça à table.
Non, mais écoute, je suis rendu là. Moi, c'est comme, il faut que tu sois abonné au compte des équipes que tu suis pour savoir qu'est-ce que les gars font, qu'est-ce qu'ils font pas, quand ils s'entraînent, quand ils s'entraînent pas, quand ils sont au repos, quand il est 3h du matin puis ils viennent de poster une story, c'est pas bon signe non plus. Mais je sais que les gars devaient être rentrés à 10h vendredi soir parce qu'il y en a qui sont partis au basket puis ils sont rentrés avant la fin du match. Fait qu'ils se sont pas couchés si tard que ça.
Tu sembles avoir l'identité de gars qui sont rentrés après l'heure voulue. Non,
non? j'ai pas vérifié ça. Mais hey, dire que Jamie Benn, il y a 2 semaines, là, c'est hey là, écoute, je pense que Dallas vont être prêts à s'en départir. Pas un bon début de saison.
Il fait la même affaire l'an passé.
On s'en va.
Le proprio l'a interpellé publiquement.
Oui, je pense. Souvenez-vous. Mais bon, là, je pense que pour tout de suite, ça va se calmer. Là.
Mais là, je pense que Claude Julien a un compte Instagram sous un faux nom probablement. Parce que lui, il avait l'air à le savoir. Pourquoi, même s'il a dit bonne chose après le match.
C'est quoi le truc de Pat Burns déjà, le gardien de sécurité avec le bâton à faire autographier pour les joueurs. Là, c'est la légende urbaine de Pat Burns.
C'est une bonne méthode. Un ancien policier. Juste pour compléter sur ce qui est derrière nous, avant de se tourner vers ce qui est devant, est-ce que vous avez un drapeau jaune par rapport à Kate Kincaid comme auxiliaire de Carey Price? Il a gagné son match.
Ouais.
Mais on a encore appris que c'est pas parce que tu désignes Carey Price dans un match que c'est des victoires automatiques, puis c'est pas de la faute à Carey Price, mais t'as 2 victoires sur 3 dans ce voyage-là, puis il y a pas vraiment de lien entre l'identité du gardien et le résultat.
Les joueurs sont vraiment mis ensemble pour aller chercher cette victoire-là à Kate Kincaid. Ma compréhension avec la discussion que j'ai eue avec Kate Kincaid, c'est que c'était vraiment...
Bon article d'ailleurs là-dessus.
Merci beaucoup. Mais c'était vraiment, j'ai l'impression, une source de stress pour lui de pas être capable d'être
le bouc émissaire de potentiel de la défaite.
De pas avoir de victoire non plus encore à sa fiche avec le Canadien. Il accordait une très grande importance à cette première victoire-là avec le Canadien. Maintenant, pour retourner à ta question, Kate Kincaid n'a pas été très bon dans ce match. Il a fait des arrêts spectaculaires. Là,
j'ai eu l'impression que plus il avançait dans le match, plus il retrouvait ses repères. J'étais moins nerveux en troisième qu'en première.
Mais le deuxième but, c'est un five-hole, pour reprendre le mot de hockey, entre les deux jambes. Le troisième but, il protège pas le bas du filet. Le quatrième but, c'est une sortie de zone terrible, une passe directe à Max Pacioretty. Alors, c'est trois buts.
Il savait qu'il y avait du lousse. Son offensive est en fond.
J'ai de la misère à gager un peu.
Il gardait les buts avec confiance.
Ouais, parce qu'il est acrobatique, mais pas toujours rassurant.
Exactement.
Parfois.
Il fait des arrêts acrobatiques, on est comme, waouh, quel arrêt, ça va être l'arrêt de la semaine. Puis après ça, il en laisse passer une où t'es comme, oh, il t'a pas bien placé là-dessus. Là. Comment ça
mais
se
ça fait peut-être mieux apprécier un gars comme Carey Price quand il est au sommet de son art. On dit l'économie de mouvement, c'est souvent ce qui est le plus efficace.
Mais le Canadien a mis ses œufs dans le panier. Kate Kincaid, et j'ai l'impression que là, après 3 matchs, ça changera pas. Là. Si on regarde, c'est parce qu'à un moment donné, puis c'est une discussion que j'ai eue souvent ici, il faut regarder les alternatives. Les alternatives à Kate Kincaid, en ce moment, il n'y en a pas tant que ça. Un joueur de ce niveau-là, il y avait peut-être Louis Domingue, qui est parti pour pas très cher, justement, mais Louis Domingue, je pense pas qu'il a la personnalité pour être un des favoris de l'organisation
à Montréal
du Canadien. Je pense pas exactement que c'était la personnalité pour... C'était pas l'homme de la situation. Si on regarde à Laval,
ben là,
Charlie Lindgren, ça marche
suite,
pas.
Mais c'est sûr que Primo va devenir rapidement candidat. En tout cas, en juger la quantité d'articles qui lui sont consacrés, j'ai l'impression qu'il y a une conspiration pour préparer un nouveau débat de gardien de but. Parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu, puis le marché s'ennuie d'un bon débat de gardien, les gars. Non, Alexandre?
Google
Primo actualité, puis t'as l'impression qu'il est joueur de la semaine dans la Ligue nationale, pas dans la Ligue américaine.
Ben, il est très tôt. Là. Je veux dire, tu sais, il y en a beaucoup là, des gardiens de but qui ont connu du succès dans la Ligue américaine, puis qui sont devenus très bons dans la... qui sont devenus ordinaires, en fait, dans la Ligue nationale. Là. Laissons-nous le temps. Là. C'est quelqu'un de très, très jeune. Je pense qu'il y a 20 ou 21. Là. En tout cas, il est au début de sa carrière.
20, oui.
Il y a 20.
941 d'efficacité.
Il n'y a pas d'âge pour être bon, oui, Alex.
Bien sûr, mais tu sais, je fais juste rappeler aussi que Kate Kincaid était aussi très bon dans la Ligue américaine. Hein. Il y a eu des bonnes saisons là, avec des bons pourcentages d'arrêt, 912-925 dans ces eaux-là.
Je suis d'accord avec toi à 100%, Alex, mais... Caden Primo, il y a quelque chose de spécial. Il a l'air d'un gardien de but. C'est un gardien de but qui est très, très carré. C'est intéressant à regarder Keith Kincaid. On est stressé à le regarder. Est-ce qu'il va faire l'arrêt? Imaginez les joueurs devant lui. Ils ont le même stress que nous. C'est encore pire.
Mais c'est difficile d'évaluer les gardiens de but en bas âge. T'sais, on pensait qu'Jakob Markström, c'était pour être un super joueur étoile.
Il y a eu des moments.
Parce qu'il était grand et gros. Ben oui, exactement. Puis encore là, il y a un gardien qui vient d'être repêché en première ronde cette année par la Floride. Puis ils ont donné un contrat de 7 ou 8 ans à Bobrovsky. Puis ils vont le laisser se développer pendant 7 ou 8 ans. C'est très, très difficile. Là. Même Marc Bergevin, il faut vous dire,
on ne sait pas combien de temps ils vont laisser se développer. C'est les performances qui vont décider. C'est comme Primo, les performances vont décider. Regardez Matt Murray, qui est un gars qui a fait une entrée assez triomphante dans la Ligue nationale, quand même gardé 72 matchs dans la Ligue américaine avant de faire le saut. Je pense que les Canadiens vont faire ça.
Des gardiens de moins de 25 ans dans la Ligue, il n'y en a presque pas. Là.
Non, puis tu regardes Matt Murray, tu sais, il arrive dans la Ligue, puis tu te dis, écoute, on est tellement bien qu'on peut laisser partir un gars comme Fleury, puis finalement, tu te retrouves à palais. Peut-être qu'on y est allé un peu trop vite. Donc, c'est pas parce que le gars il joue fait bien dans la Ligue américaine qu'il va devenir un grand gardien dans la Ligue nationale. Puis je pense que le débat Price Primo, là, j'espère qu'on est à au moins 3 ans de ce débat-là. J'espère.
Mais ce que je veux dire...
On espère que Carey Price va être assez bon pour fermer toute discussion. Exact. Mais comme backup, je pense qu'à un moment donné, ça va se présenter comme auxiliaire.
C'est ça que je voulais dire. Oui, en ce moment, les œufs du Canadien sont dans le panier Keith Kincaid, donc je crois qu'il est tôt pour avoir le débat de l'auxiliaire, mais je pense pas que c'est un débat qui est écarté pour la saison. Je ne le pense pas. Le Canadien est pas à ce point-là impliqué dans le dossier Keith Kincaid pour en faire une question de vie ou de mort.
Là. Même que j'ai envie de faire une prédiction, souvent, là, les systèmes font que le vrai gardien numéro 2 de ton organisation, il est pas en haut, il est avec le club école. Et si jamais, par exemple, on était, prudent ou hésitant avant d'utiliser Kincaid là, après les fêtes, puis que là, ce qui va se présenter, à moins qu'il y ait plusieurs bons départs, c'est ce que je leur souhaite, c'est ce que je lui souhaite, mais s'il n'y a pas des bons départs, Claude Julien va être réticent de l'utiliser. Puis là, plus qu'il va avoir un écart entre deux matchs, ben moins on va vouloir l'utiliser, puis c'est là qu'un primo risque... c'est un scénario où on risquerait de voir
mais c'est pas beaucoup dans les habitudes de la maison. Là. Regardez même la façon dont Carey Price a été amené. Carey Price, le cinquième show total, lui-même a été amené à petite dose. Il n'est pas rentré dans la Ligue nationale puis il n'a pas gardé les buts pendant 60 matchs dès sa première saison. Ça fait vraiment longtemps là, que le Canadien a rentré un gardien recru là.
Alexandre, là, je vais être obligé de pas être d'accord parce que Carey Price a un total de 12 matchs dans la Ligue américaine en carrière.
Ben oui, on l'a amené dans les playoffs pour finir l'année.
Et dans le fond, ce qu'il a fait, c'est qu'on a tassé Alak, qui méritait d'être le gardien de ces séries-là, mais on avait désigné Carey Price comme le gars qui allait devenir le numéro 1. Alors, il y a 12 matchs de saison régulière dans la Ligue américaine et il y a une année de série dans la Coupe Calder où il a joué 22 matchs. Donc, c'est l'équivalent série et saison confondue de 34 parties dans la Ligue américaine. Alors, si le chemin emprunté par Price est un signe de ce qu'on va faire avec Primo, on va le voir plus tôt que tard, je pense.
Ouais, mais regarde, je pense qu'on va étudier les situations telles qu'elles nous les amènent. Parce que, tu sais, l'époque de Carey Price, les gens qui géraient l'équipe à cette époque-là sont plus là aujourd'hui. Donc, je pense pas que Bergevin va dire, il y a 6 ans, on avait fait ça avec Price. Il va y aller avec le...
Avec 41 matchs de saison régulière, Price,
on était dans un système à deux. On était dans un système à deux gardiens là, à l'époque.
Oui, plus souvent qu'autrement. Dans le fond, lui, tu vois, en 2007-2008, il partageait le filet avec... Alak, déjà. Il y avait Huet, non, c'est Huet qui était là.
Il y a eu Alak en 2010. Même dans les séries en 2010, le Canadien lui avait préféré Alak, même s'il était à sa troisième saison dans la Ligue nationale. Donc,
Mais il était là de bonheur, c'est ça que je veux dire.
Oui, il était là. Oui, mais c'est, écoute, il n'y avait pas beaucoup d'expérience.
Mais il n'y avait pas de Price en avant de lui. Ouais, la différence, c'est qu'il n'y avait pas de Price en avant de lui. Ça, c'est sûr que c'est un facteur
surtout avec un gros contrat à long terme.
Bon, vous étiez qui était là vendredi avec c'est vrai qu'il ventait partout. On était Philippe Quentin, Alexandre et moi. Il y en a qui n'ont pas été en mesure de se rendre ou avec qui la ligne ne fonctionnait pas. Mais personne ne m'a exigé d'excuses. Vous êtes bons princes, les gars, si vous m'avez ménagé. Mais il semble que je dois peut-être m'excuser. Kotkaniemi semble blessé pour vrai.
Eh oui.
Allen et donc arrêté un deuxième match samedi. Je sais pas combien il va en manquer. A été placé sur la liste des blessés.
C'est sûr que la séquence d'événements avait l'air douteuse. Hey. Marion, t'en veux pas à 100%.
Ah, t'es gentil, mais justement, c'est quand jeudi que je m'entretenais avec Joël Bouchard. Mais dans ses propos, je peux pas m'empêcher qu'il avait vu une radiographie de KK parce qu'on dirait qu'il sait ce qui allait se passer. Et Joël nous parle de Kotkaniemi avant le week-end. Parce que là, je parlais de Poehling, je parlais de Kotkaniemi. Voici ce qu'il avait à dire sur Kotkaniemi. Un appel à la patience.
Moi, je pense que le temps arrange les choses. Et puis la carrière d'un joueur de hockey, surtout dans le cas de Kotkaniemi, c'est à long terme. C'est un bon gars qui a 19 ans, qui est souriant à la vie, qui est gentil avec les autres, qui a un côté compétitif en lui. Je l'ai vu dans un camp de développement. Pour moi, c'est un gars qui a une belle attitude, qui a une belle écoute. Ça fait partie de son cheminement d'un jeune joueur, d'avoir des bons coups et des ratés. Mais tout le monde, on est tous d'accord qu'on aime le jeune, puis on aime le talent et le potentiel.
Et la question qui suit ceci avant un extrait sur Ryan Poehling, c'est est-ce qu'il va jouer son premier match ou son prochain match à Laval ou à Montréal?
Pas impossible. Pas impossible. Ce ne sera pas la fin du monde s'il faisait un petit séjour à Laval. Écoute, quand on regarde, on a rarement vu des joueurs passer une année complète, puis après ça se retrouver. Il y a eu Victor Mété. Qu'on a renvoyé à Laval l'année passée, quelques semaines, ça y a fait du bien.
Marquer son but.
Exactement. Tant que les choses sont bien expliquées aux joueurs, je pense pas que c'est la fin du monde. Puis il y a raison, parce que s'il y a quelqu'un ici qui s'attendait à ce que Poehling ou Suzuki ou Kotkaniemi soient des gars qui marquent des buts à tous les matchs dès leur première ou deuxième année dans la Ligue nationale, trompez-vous. Là. C'est sûr que ces gars-là vont avoir des hauts et des bas, puis je pense qu'on est prêt à vivre avec ça.
Moi, je suis pas d'accord. Je pense qu'il doit continuer à Montréal. D'ailleurs, je chronique là-dessus demain. Là. Il doit continuer à Montréal.
Est-ce que ta chronique est finie d'écrire?
Malheureusement pas.
OK.
Vous pouvez encore changer d'idée.
Mais
si on regarde le top 50 des marqueurs de la Ligue présentement, là, des joueurs qui ont fait une saison complète dans la Ligue nationale et qui après sont retournés dans la Ligue américaine, il n'y en a pas 25. Là. Il y a eu Brent Burns, Bergeron puis Ryan Ellis, mais c'est parce qu'il y avait un conflit de travail dans la Ligue nationale. Il cherchait une place. Tom Wilson est retourné 2 matchs. Sinon, il y en a un seul. C'est Jonathan Drouin. Ça s'était pas très bien passé. Si vous vous souvenez, ça s'est
pour d'autres raisons.
Non, ouais. Mais maintenant, si on descend dans la liste, on va en trouver plusieurs. Mais c'est pas du monde que vous allez prendre à votre pool de hockey. Puis j'ose croire qu'on a des ambitions plus grandes pour Kotkaniemi que des joueurs comme Jesse Puljujärvi, Jake Virtanen, Brett Connolly, Pavel Zacha, Aiden Fleury. C'est le genre de joueurs qui sont retournés dans la Ligue américaine. Plusieurs de ces joueurs-là ont été d'ailleurs échangés rapidement après leur passage dans la Ligue américaine parce que, je veux dire, ça joue sur la relation entre un club et son joueur.
Les noms que tu as nommés, par exemple, Puljujärvi, Pavel Zacha, Brett Connolly, étaient des espoirs de premier plan à ce moment-là. C'était des jeunes en qui on croyait énormément au début de leur carrière.
Oui.
Finalement, ça ne s'est pas développé comme ils voulaient. Alors, c'est un séjour dans la Ligue américaine qui était logique.
Mais il faut voir à quel âge ces gars-là ont fait leur retour dans la Ligue américaine. Lui, il est encore très jeune.
Après, ce sont tous des joueurs qui ont passé leur première saison dans la Ligue nationale et qui sont retournés la saison
suivante.
C'est-à-dire qu'ils
sont passés directement dans la Ligue nationale, là. C'est ce que tu me dis.
Oui, ils ont commencé à 19 ans puis qui sont retournés l'année de leurs 20 ans.
Okay. Là où je vais avec ça, c'est que c'est des joueurs qui ont eu besoin d'aller dans la Ligue américaine parce qu'ils n'étaient peut-être pas au fond d'aussi beaux espoirs qu'on le croyait. Et je suis vraiment pas prêt à dire ça pour Jesperi Kotkaniemi. Là, c'est vraiment très tôt, il y a 19 ans, tout le monde est d'accord là-dessus. Mais peut-être qu'on est à un stade où on doit évaluer le plein potentiel de Kotkaniemi. Puis comme disait Jérémy, je suis pas complètement en désaccord que peut-être quelques matchs dans la Ligue américaine.
Ouais, on s'entend que ça va pas bien. Là. Dans les 30 derniers
exactement.
Matchs, il y a juste 2 buts. Je veux dire, depuis le début de la saison, il est le joueur le moins utilisé du Canadien. C'est le joueur avec la plus faible production offensive de l'équipe. Il a joué 5 secondes en infériorité numérique dans toute l'année.
Mais considérant ce que tu dis, Alexandre, ouais, je te relance la question à toi. J'ai du mal à comprendre pourquoi tu vas nous expliquer dans une chronique demain qu'il faut qu'il reste en haut.
Moi, je la garderai avec Montréal jusqu'au début du mois de décembre. Puis après, j'envisagerai sérieusement la possibilité de le prêter à l'équipe finlandaise pour le championnat mondial junior.
Ah, c'était okay. Ça son punch. Il nous attendait, il nous a emmené dans le cœur. Puis là, oh, silence.
Ben, le Canadien a envoyé Mété à 19 ans avec l'équipe canadienne. Pour moi, ça serait un moindre mal, en fait, parce que...
Oui, mais il n'était pas dans la Ligue nationale encore, Mété, là.
Oui, mais oui, t'étais dans la Ligue
nationale. Il était le joueur qui était national canadien.
Oui. Pour moi, ça serait le moindre mal, en fait, parce que renvoyer Kotkaniemi à Laval, à court terme, ça signifierait qu'il tomberait troisième dans la hiérarchie des espoirs en attaque derrière Suzuki et Poehling sur le court terme. Peut-être pas sur le long terme. Moi, je trouve que ça sauverait la face de tout le monde, en fait, de l'envoyer avec l'équipe finale.
Écoute, je pense pas que ça fait de lui automatiquement le troisième dans la liste. Les choses changent tellement vite dans la Ligue nationale. T'sais, tu connais une bonne séquence, puis tout d'un coup, tu te retrouves. Même les trios, trio. Tu peux te retrouver sur un. T'es sur un quatrième trio. Deux semaines plus tard, t'es sur le deuxième ou même sur le premier des fois. Fait que. Non, je pense pas que ce serait dramatique. Puis comme j'ai dit, par contre, comme tu as mentionné tout à l'heure, il faudrait quand même bien lui expliquer que c'est pas. Il est pas là à long terme. Il est pas là parce qu'on abandonne sur lui. C'est juste qu'on veut qu'il s'améliore. C'est tout, là. Ben,
c'est pas Nikita Scherbak, là.
C'est ça.
Non. C'est Kotkaniemi. Puis Scherbak vient d'être placé au ballottage par une équipe en KHL il y a une semaine. Moi, je pense que peu importe la décision qu'on va prendre, là, on voit des flashs. T'sais, on peut voir que ce gars-là a des aptitudes. Je sais pas s'il va devenir une super vedette, mais il va jouer dans la Ligue nationale. Je suis vraiment sûr.
Mais moi, je suis pas prêt à dire que ça n'a pas d'impact. Quand on envoie un joueur là, dans les ligues mineures, un joueur de son statut, là, troisième choix au total, tous les joueurs que j'ai nommés tantôt, là, ils ont tous été choisis après le troisième. Regardez juste ce que Ryan Poehling a dit ce matin à l'entraînement. Il dit « J'étais encore un peu en colère d'avoir été rétrogradé. Je pense que ça a affecté mon jeu pendant les premières semaines. » Les premières semaines.
Ben,
alors, imaginez, je veux dire, la réaction de Kotkaniemi qui joue au grand frère avec Poehling. Il joue au grand frère avec Fleury. Il joue au grand frère avec Brooke et Suzuki et qui, lui, est renvoyé alors que ses copains sont en haut. J'ai de la misère à voir ça d'une façon positive.
Je pense que c'est des gars qui ne voient pas la réalité en pleine
face. Moi, je pense qu'il y a juste du positif. Puis dans le cas de Poehling, alléluia. Pas qu'il y ait eu une blessure, là, mais que, je veux dire, on ne souhaite pas de blessure à personne, mais que les circonstances ont fait en sorte que le Canadien était un peu contraint d'y faire commencer l'année à Laval. Je pense pas que c'était ça leur plan de match au début, mais je pense qu'ils vont en bénéficier d'avoir vécu un peu d'adversité. Les gars qui arrivent dans la Ligue nationale sans vivre d'adversité, sans jamais être contrariés, c'est pas un CPE, là, c'est la Ligue nationale de hockey, c'est le Canadien de Montréal. T'essaies de bâtir une équipe avec du caractère, puis là, on va mettre de la ouate partout pour que les petits gars, ils se fassent
non,
pas mal,
t'as raison.
Bobo, tout ça. Non, adversité, non. Puis
mais
peut-être
adversité,
que...
Mario, c'est pas fin
du
monde. Puis,
justement, si c'est tellement un bouleversement, c'est parce qu'ils ont, je dirais pas tout cuit dans le bec, mais un peu tout cuit dans le bec.
Parce que
ce sont les chances, les étiquettes qui viennent avec le fait d'être un premier choix d'une organisation qui a besoin d'un gars qui incarne l'espoir, bien plus qu'on a besoin de sa glace. À preuve, c'est que Claude, il sait plus comment l'utiliser. Fait que le bobo est identifié, puis honnêtement, il y a une blessure à l'aine, mais c'est un fichu de bon timing pour être blessé, et un fichu de bon timing et de bon prétexte pour... resetter son, en tout cas, faire une espèce de point de transition parce que sous le prétexte de reconditionnement, quand, excusez-moi,
exactement,
c'est pas le bon terme en français, là,
reconditionning,
de leur mettre en forme. T'as manqué presque une semaine. On aimerait ça que tu sois vraiment en forme et que tu reviennes en haut. Faut que t'ailles jouer des matchs en bas. Puis savez-vous quoi? Poehling va être bien meilleur là, demain, et on va avoir un bien meilleur line-up contre les Bruins parce que Poehling va être dans l'alignement. Puis Kotkaniemi, je pense qu'aurait été un non-factor dans le match demain, tel qu'on le voit depuis le début de l'année.
Joël Bouchard l'a répété plusieurs fois depuis que j'ai l'occasion de lui parler, c'est la Ligue en bas, c'est une ligue de développement. La LNH, c'est une ligue de performance.
Exact.
Et à ce moment... Et puis, je suis d'accord avec tout ce qui est dit sur Kotkaniemi, sur l'avenir du jeune homme, que c'est un excellent joueur, mais il est peut-être encore au stade développement de sa carrière, plus qu'on pensait, plus que performance. Ceci dit, Ryan Poehling. Ryan Poehling, j'avais eu l'occasion de lui parler dès le lendemain de sa rétrogradation.
Ouais, moi aussi, j'étais là.
On était ensemble. Mais c'était...
Il était pas content?
C'était pas un campeur heureux, là, comme on dit. Là. C'était loin d'être un grand moment d'extase pour lui. Là. Ça a été dur.
J'aime ça.
Puis il était assez sec quand on lui parlait de ce qu'il avait à apprendre, des vétérans qu'il allait côtoyer. Et les premiers matchs de Poehling dans la Ligue américaine, de tous les rapports que j'ai lus,
ça a été très difficile.
Et d'ailleurs, récemment, il n'est pas sorti de la tête de l'eau. Là. Il n'est pas devenu une étoile de hockey subitement. Plusieurs m'ont dit que ses partenaires de trio et Charles Hudon et Alex Belzile avaient été meilleurs que lui. Ceci dit, moi, je ne ferme pas la porte du tout. Je suis très intéressé de voir ce que Ryan Poehling va pouvoir offrir. Surtout, de ce que j'ai compris, sera entre Lekkonen et Paul Byron, qui est le trou noir offensif de la formation. Alors, le plus grand défi qu'il y a en ce moment, s'il réussit à créer quelque chose à ce trio-là, bon, je vais commencer à couler le bronze pour la statue. Là.
C'est un fichu de bon élément de comparaison. En tout cas, je te dis pas que c'est les deux meilleurs ailiers pour produire dans la Ligue nationale, mais Kotkaniemi a joué avec eux autres, Suzuki a joué avec eux autres, le Poehling va jouer avec eux autres. Fait que, mettons que les 20 premiers matchs d'une saison régulière, si tu fais pas trop mal dans la colonne des défaites, t'es encore à l'étude et dans la fin de ton camp d'entraînement et ton processus d'évaluation, tu vas avoir des bons éléments de comparaison, là.
Puis c'est aussi un bon moment pour le Canadien de rappeler Poehling sans avoir à placer personne au ballottage. Fait que en termes de business, t'échappes pas personne puis t'as la chance de voir ton prospect.
Et sans savoir que Kotkaniemi allait être blessé samedi, lors de mon entretien la semaine dernière avec Joël Bouchard, simplement ce qu'on voyait hockey nous amenait à poser des questions sur Kotkaniemi et sur Poehling et je lui ai demandé s'il était prêt.
Bon, tu sais, dans la vie, Mario, on est prêt vraiment à quelque chose. On ne sait jamais vraiment jusqu'à quand on le vit. Puis à un moment donné, il faut plonger, il faut y aller.
Oui.
Fait que pour moi, le mot prêt, là, on le sait jamais. Puis côté de Ryan, son ajustement se fait bien. C'est un joueur qui arrive des rangs universitaires. Pour moi, c'est très positif.
Et il disait que son problème, il manquait de constance. Tu sais, comme les jeunes, c'est une observation qu'on entend. Mais on est curieux. Avez-vous hâte de voir ça, Bruins Canadiens, demain? Pour vrai, là, j'ai l'impression que la saison va commencer.
Ben, moi, j'ai hâte de revoir Peeling, en fait, à un niveau Peeling, de jeu quand même supérieur à la Ligue américaine. Je pense que c'est Dale Louise qui disait aujourd'hui, il y a quand même quelque chose de plate dans la Ligue américaine. C'est le talent, il est pas tout à fait là. T'as beau faire des bonnes passes, les gars, ils en mettent pas dedans tout le temps. Là, il va jouer avec des joueurs de la Ligue nationale, contre des joueurs de la Ligue nationale. Il y a eu un match extraordinaire l'année dernière, mais là, ça va être intéressant de le voir, je veux dire, dans un match qui compte vraiment. Là.
Contre une équipe qui a tout un début de saison, GF.
Exact. Je ne suis pas derrière les portes closes du Rocket de Laval, mais c'est aussi, à mon sens, une question d'attitude. Si c'est normal et c'est logique qu'un jeune homme encaisse une déception au moment de sa rétrogradation, je veux dire, j'ai pas de problème avec ça, mais si il s'est pris en main rapidement et qu'il s'est dit, regarde, là, on relève les manches, je vais travailler fort... Je vais jouer. C'est une ligue compétitive, la Ligue américaine. Ah oui. Là, je veux dire,
c'est pas un cadeau,
la ligue de garage dans Rosemont. Là, je veux dire, ils savent jouer au hockey, le monde. Donc, si tu lèves tes remanches, tu te dis, je suis capable, je vais revenir. Puis, il y a un changement d'attitude, il y a un changement du niveau de l'effort. Joël Bouchard, on dira ce qu'on voudra, est excellent pour évaluer.
Peeling a commenté le travail de Joël Bouchard aujourd'hui, justement, à la pratique des Canadiens. Ça semblait positif.
Ben, Joël Bouchard est excellent pour évaluer l'effort d'un joueur, pour évaluer son niveau d'implication et pour avoir assisté à quelques entraînements du Rocket de Laval, Joël Bouchard, c'est pas un tendre, là.
Mais justement, il dit qu'il était très exigeant.
Mais justement, est-ce que la mayonnaise, ça peut prendre avec Kotkaniemi, là, connaissant le style des deux personnes?
C'est sûr que quand tu regardes les deux ensemble, tu dis, oh, pas là, OK, est-ce que ça va fitter? Mais moi, ce que j'aime de Joël, c'est que si tu t'en vas en bas, puis tu fais la baboune, puis t'es pas heureux d'être là, il va te le faire savoir que t'es pas à la bonne place, puis t'as pas la bonne attitude. Fait que, regarde.
Puis à un moment donné, écoute, j'en reviens pas. C'est correct qu'on prenne soin de l'aspect psychologique du joueur, mais c'était dans un monde de performance, de compétition, et tu dois. Il y en a qui ont pas eu de carrière parce qu'il y avait pas le coin assez dur.
D'accord, mais tu sais, pour moi,
je pense que Kotkaniemi a un coin assez dur, mais ça va prendre le temps.
Hey, on le connaît pas beaucoup.
Pour
moi, le renvoyer un joueur de son statut dans les ligues mineures, ça se fait. Mais c'est un petit peu comme quand t'es dans la classe à l'école secondaire, puis tu joues avec la chimie, là. Tu mets deux ingrédients ensemble, puis bon, ça se peut que ça explose pas, mais ça se peut que ça explose. Puis, tu sais, tu prends une chance. Je trouve que c'est prendre un gros risque avec l'espoir supposément numéro un du Canadien.
Mais ne rien faire, ce serait pas prendre un plus grand risque?
Ben, ne rien faire. Moi, c'est pour ça que je dis, peut-être qu'une façon de le relancer, ce serait de le faire connaître des succès en le faisant jouer contre des joueurs théoriquement plus faibles que lui. Je veux dire, s'il va au championnat mondial junior, puis après ça, tu réévalues. Là, présentement aussi, chez le Canadien, il n'y a pas de blessés, à part Kotkaniemi.
Ouais.
Il va y avoir des blessés à un moment donné dans le club. Là.
Mais juste sur l'échelle de niveau de difficulté auquel tu veux le confronter, donc, tu es prêt à le prêter aux juniors pour qu'il puisse dominer, mais en même temps, tu veux qu'il reste dans la Ligue nationale. Je veux dire, la Ligue américaine, c'est pas une ligue de pique-nique. C'est pas mal plus fort que le championnat du monde de hockey junior, là, la Ligue américaine.
C'est à court terme, je pense que c'est un gars qui a besoin de marquer des buts. Là. Je veux dire, il a besoin de voir la lumière rouge. Pis,
moi, je suis pas fermé à ça.
C'est pas un peu.
Dans les deux avenues, mais je suis surtout pas fermé à ce qu'il y a dans la Ligue américaine. Puis qu'ils reviennent les couteaux entre les dents pour utiliser une vieille expression.
C'est ce qu'ils ont fait avec Victor Mété. Ça a bien fonctionné. Joël Bouchard. Joël Bouchard, là, Victor Mété, quand il est allé dans la Ligue américaine.
Il était pas content, lui non plus.
Mais il ne faisait même pas pratiquer les exercices offensifs. Victor Mété ne faisait que les exercices défensifs. Fait que l'avantage numérique ou la relance offensive ou le patin, non, touche pas à ça. Là, tu vas jouer en défense et tu vas couper des jeux chaque jour de ton passage dans la Ligue américaine. Il est revenu en haut. Je sais que Victor Mété a été sujet de débat il y a quelques semaines. Certains l'aiment plus que d'autres. Moi, je l'aime beaucoup.
Moi, je l'aime bien. Je l'aime beaucoup, moi aussi.
Sauf qu'il n'a pas eu le choix d'apprendre à placer son bâton à la bonne place pour, comme on dit, tuer les jeux en zone défensive.
Non, mais on l'a placé dans une situation pas facile non plus.
Mais hein?
T'es un jeune homme, tu dis « Ah ouais, let's go ». T'as sa première vague, t'es avec Weber, tu joues avec lui. C'est normal que le gars va connaître des hauts et des... Puis je trouve qu'il s'améliore cette année. Il est meilleur qu'il était l'année passée, puis meilleur qu'il était l'année précédente. Puis...
Contre les meilleurs éléments des adversaires.
Exact. Puis, tu sais, il est allé à Laval, il a appris ce qu'il avait à apprendre, mais pour lui, c'est sûr que... C'est plus facile, un gars nord-américain, de faire comprendre. Il connaît la game, il n'a vu d'autres. Tandis que peut-être que pour un gars comme Kotkaniemi, qui a encore un peu de misère avec la langue, là, on va le dire, qui est un peu réservé, peut-être qu'il va aller à Laval puis il va se perdre, mais tu sais, on n'est pas là, on l'envoie pas là pour deux ans, là, tu sais.
Non, une couple de semaines, puis s'il se perd là, ben tu l'as reçu. Mais je peux pas croire que c'est ça qui va y arriver. Là,
mais je déteste pas l'idée d'Alex. Je reviens à son idée du championnat mondial. Je ne déteste pas.
Avoir du fun.
Mais ce que je déteste pas, Alexandre, c'est qu'on s'entend sur une chose. Tu reconnais qu'il faut qu'il fasse quelque chose de différent avec lui. Parce que là, il n'y a pas d'une pente ascendante.
Tu sais, le championnat mondial, mine de rien, c'est en République tchèque. Le porte-parole, en tout cas, la figure de ce championnat, c'est Tomáš Plekanec, qui a été quand même centre aux Canadiens, qui connaît bien ça. Être le Canadien, j'essaierais d'organiser une rencontre entre les deux. Puis le Canadien aussi, tu sais, qui mettait beaucoup d'accent sur son jeu défensif tout en étant un joueur capable de marquer. C'est ce qui manque à Kotkaniemi présentement, là, je veux dire, de cette mentalité-là de jouer dans les deux sens de la patinoire. Moi, je vois du positif à ça. Honnêtement, c'est quelqu'un qui a besoin de sourire un petit peu.
Est-ce qu'il aurait été meilleur s'il était retourné en Finlande l'année passée? Est-ce qu'il aurait été meilleur?
Il ne serait pas retourné en Finlande l'an passé. Il serait allé à Laval.
Je pense qu'il avait le choix, lui. Je pense que dans son contrat, il avait le choix.
Mais lui, il voulait jouer en Amérique, puis il voulait être le plus proche de la Ligue nationale pour avoir un peu...
Est-ce qu'il aurait été meilleur s'il avait joué une saison complète à Laval l'année passée? Tu sais, c'est ça.
Je veux dire, on ne sait pas ce qu'il va devenir.
Il n'y a pas
de certitude dans rien, mais c'est sûr que...
Non, mais on sait que les gros joueurs de centre, ça leur prend plus de temps. Exact. Puis on l'a dit vendredi, Bergevin l'a dit, il va atteindre son potentiel vers 22-23 ans, puis on revient, tu sais, Barkov, ses deux premières saisons, 24 et 36 points, Joe Thornton, puis là, je ne compare pas Thornton, puis Kotkaniemi, mais il a fait 7 et 41 points.
Couturier, c'est à sa septième année qu'il a passé le cap des 40 points. Ryan Johansson. William Carlson, ça a pris une couple
d'années. C'est ça. Donc, je pense que c'est là qu'il faut écouter ce que disent les gens du Canada. Ce que pense Joël Bouchard, puis de dire que ça va prendre du temps. Ben oui, mais...
Jack Eichel, c'est la même chose.
Mais en fait, il savait de quoi il parlait. Ben,
peut-être que l'erreur, en fait, ça a été de le faire commencer la saison d'honneur à Montréal. Parce que tu dis, il n'y avait aucun avenir dans ce club-là l'année dernière. Ça prenait quelque chose. Ça prenait
un ingrédient. Un ingrédient. Un mur à la Donald Trump pour bloquer le cynisme et le sarcasme et la colère des amateurs.
Maintenant, est-ce qu'il referait exactement le même geste? Je le sais pas. J'aurais tendance à parier que non.
Ailleurs dans la Ligue nationale, les gars, les Bruins de Boston, toute une équipe, les Islanders de New York, est-ce que je voulais poser la question l'autre jour? Ouais. Comment ça se fait que les Islanders sont meilleurs que le Canadien? Mm-hmm. Tu sais, le Canadien a perdu, avait une possibilité d'aligner une quatrième victoire de suite samedi, mais il était tellement content d'en avoir gagné trois qu'il n'y avait plus d'ambition d'en faire davantage. C'est une des raisons qui fait que les Islanders sont meilleurs. Ils n'ont pas l'air de vouloir se contenter. Ils ont fait des séries l'an passé, même s'ils n'ont pas de joueur qui peut expliquer une telle différence avec le Canadien de Montréal. Ils n'ont pas de gardien à 10 millions. Ils ont un coach qui a gagné la Coupe Stanley l'année d'avant, mais sont-ils à ce point meilleurs que le Canadien ou ils sont plus affamés, ils ont plus d'ambition?
Je reviens à ce que je t'avais dit à ce moment-là. Je vous ai déjà étayer mon amour de Barry Trotz comme entraîneur. C'est pas du tout un jab envers Claude Julien. C'est pas là que je m'en vais du tout. Mais Barry Trotz, à mon avis, est un entraîneur exceptionnel. J'avais demandé à Joël Bouchard, l'entraîneur préféré que tu as eu à travers ta carrière. Il avait dit sans hésiter Barry Trotz.
Mmh. Ah, il l'a dirigé, je me souviens.
Joël Bouchard est quand même une tête de hockey. Je dis surtout en rétrospective, il y a tout à fait le loisir de choisir cet entraîneur-là, je l'aimais pas, cet entraîneur-là, je l'aimais pas, ou j'aimais ce qu'il faisait. Il y a une réflexion qui s'est améliorée sur les hommes de hockey et pour dire qu'à travers toute sa carrière, Barry Trotz est le meilleur entraîneur qu'il a eu. À mon avis, ça parle beaucoup sur la personne. Puis ça explique en bonne partie, à mon avis, comment cette équipe-là réussit à continuer à connaître du succès.
Mm. Et Jérémy, quelque chose à ajouter là-dessus, toi, sur Trotz?
Bon, on avait parlé un petit peu il y a quelques semaines.
Mais reste que l'élan des Islanders ne s'arrête pas. Et les gars, au plan statistique, les équipes qui ont du succès, ça s'explique par la colonne des buts accordés. Même si ça plaît pas toujours aux amateurs qui veulent des vedettes offensives et tout ça, mais eux autres, ils donnent pas de buts. Les Islanders, c'est vrai qu'ils ont juste 11 matchs de jouer cependant, là, mais ils ont accordé 27 buts. Et les Bruins ont 12 matchs de jouer, ils ont accordé 25 buts.
En fait, Grice et Varlamov, qui sont leurs deux gardiens de but, sont tous les deux dans le top 10 de la Ligue pour le pourcentage d'arrêt aussi.
Sans dire long.
Des gardiens très sous-estimés. Ouais.
Et encore une fois, il faudrait voir quelle chance de marquer ou quel type de chance de marquer auquel ils font face, parce que les structures défensives qu'ils ont devant eux font bien paraître souvent les gardiens de but. Ouais. On peut pas dire que la structure défensive du Canadien cette année donne pas un niveau de difficulté plus élevé aux gardiens, vous trouvez pas?
C'est sûr.
Tout à fait.
C'est sûr. Puis ça, c'est vrai pour toutes les équipes de la Ligue. Je veux dire, nomme-moi une équipe qui a une mauvaise défensive, puis moi, te nommer un gardien qui a un mauvais début de saison.
Mais Price est 26e dans la Ligue pour le pourcentage d'arrêt, puis on s'entend qu'il garde... Je veux dire, quand au test de l'œil, il est meilleur que ça.
Hey, les gars, samedi, si c'est pas de lui, il n'y a pas de game. Là.
Il y a plusieurs matchs depuis le début de la saison que le Canadien n'est pas là, si Price n'est pas
T'as bien raison.
Ceci dit, il n'a volé un, selon moi. Un volé, c'est celui à Toronto. Mais pour le reste, je peux pas dire qu'il a volé de match. Mais samedi, c'est pas 2-0 après deux périodes.
Non, non.
C'est pas
dans les premiers matchs de la saison, il était vraiment solide. L'équipe aurait pu s'effondrer là, dans les 4-5 premières parties. Là.
Quand il a donné un but sur le tir de pénalité samedi, je n'ai pas osé aller voir ses médias sociaux. Là. Je me suis fait à croire que j'avais plus de courant.
Mais j'ai trouvé le lancer de pénalité. J'étais un peu tiré.
Ben, c'est la raison. C'est ça. Moi aussi,
honnêtement,
j'étais d'accord avec
moi,
toi.
Moi, j'ai vu la séquence, puis bof. C'est correct. Là, je pense qu'on encourage les arbitres à en donner. On le dit publiquement.
C'est bon pour le show.
C'est bon pour le show, mais bof. Mmh. Honnêtement.
Ouais, les gars, Raphaël, oui, Jeff?
Je suis assez d'accord avec Jérémy là-dessus.
Quelques autres sujets qui vont animer des propos intéressants, je pense. Il y en a un que j'ai hâte qu'on aborde. Mais Milan Lucic, dans un premier temps, défendu par son entraîneur, son DG, Tree Living, pour le coup de poing qu'il a asséné à un gars sans défense derrière le filet, juste parce qu'il avait tenté de tirer la rondelle au gardien qui l'avait immobilisé. L'individu est Cole Sherwood. Deux matchs pour Lucic?
Exact, oui.
Êtes-vous d'accord avec le DG ou avec le préfet de discipline?
C'est le genre de geste au hockey que je trouve absolument scandaleux. Moi, ça me met hors de moi, ces gestes-là. C'est tout à fait ridicule. Je me rappelle d'une discussion à bâton rompu il y a quelque temps avec Marc Streit, qui n'était pas non plus le plus robuste des robustes, mais il avait dit, même moi, 20 fois par match, je peux blesser quelqu'un. Il y a un numéro devant moi, il y a une certaine distance avec la bande, je pourrais blesser 20 joueurs par match.
C'est sûr.
Alors, à ce moment-là, pratiquement tout le temps dans le match, tout le monde, quand ils ressentent la situation du joueur qui est tout croche au bord de la bande, vont faire attention. Si ces cas-là arrivent, ça veut donc dire que ça va vite. À mon avis, c'est vraiment rare qu'il y ait une vraie volonté de sortir un joueur de sortir un adversaire sur une civière. Je pense pas que ça arrive si souvent que ça.
Lucic agissant en protecteur de l'ancienne mentalité.
Ce cas-là précis, c'est Milan Lucic qui saute sur le joueur et qui lui donne un coup de poing puis il s'effondre à terre. Je veux dire, deux matchs de suspension, je trouve ça ridicule. Ce sont des gestes faciles à éliminer. Très il est pas tombé sur le gardien de but. Il a pas cassé son bâton sur sa nuque. Là. Je veux dire, à un moment donné, il a poqué un peu la rondelle qui était peut-être un peu lousse.
Et c'est un multi-récidiviste. Sérieusement, moi, tu sais, à un moment donné, là, quand t'es suspendu, ça devrait s'accumuler puis vite. Là, genre,
c'est supposé
deux,
être ça.
Donne-en 15, fais-le réfléchir.
J'ai pas étudié Lucic, il y en a-tu pas mal?
Il y a gelé Freddie Mayer là, qui était pour les Trashers à l'époque. Là, il avait reçu une amende de 2 500 $. Après ça, il s'en était prêt. Ryan Miller, en fait, il avait le frappé Ryan Miller, oui, qui avait reçu qui avait subi une commotion. Même chose, c'est un vrai coup dangereux sur Zach Rinaldo à l'époque. L'année dernière, il a frappé Mathieu Joseph. Il y a eu l'amende maximale de 10 000 $. Tu sais, à un moment donné, 10 000 $ sur un salaire. Écoute, il gagne 8 ou 9 millions par année.
Il n'y a pas de problème.
C'est rien. Là. Il recommence tout le temps. Il n'apprend pas. T'sais, pour moi, c'est un peu comme à l'époque... comment il s'appelle? Le gars de Pittsburgh là, qui frappait tout le monde tout le temps.
Matt Cook.
Ben, oui, c'est ça. T'sais, à un moment donné... là.
Fait du bien de pas en entendre parler, lui, de
oui,
bien
non, mais
entendre
tout
parler.
À fait. Sérieusement, ces gars-là, c'est plate. Ça n'a pas sa place.
Ben, Lucic, ça fait un bout qu'il est dans la ligue. C'est des choses qui auraient peut-être été acceptées il y a de ça 7, 8, 9, 10 ans, quand il a commencé. Aujourd'hui, ça se fait plus. Surtout que c'est un coup directement à la tête.
C'est un sucker punch.
Ben ouais, c'est ça. Puis comme tu dis, Mark Streit, puis ça peut être n'importe qui. Si t'es une patinoire de hockey, puis tu sais que le gars s'en attend pas, puis tu wind up, comme tu dis, ben comme voilà. Toi, tu le frappes dans. Ouais. Tu vas y faire mal.
Je pense qu'il y a une différence. La semaine dernière, par exemple, Jeff Petrie a frappé, je pense, Tyson Berry, là, quand il est rentré dans la zone.
Oui,
c'est un gros
exact.
Coup. Il n'y a aucun joueur des Maple Leafs qui a répliqué, qui a rien fait. Bon, puis je peux comprendre.
C'est peut-être un autre problème.
C'est ça, exactement. Non, mais je comprends les gens d'en vouloir, en tout cas, Maple Leafs, ou même
et
des
si Lucic, ou s'il y avait un Lucic qui jouait pour les Leafs, probablement qu'il aurait fait quelque chose.
Dit, mais... ils auraient préparé le combat avant. Le gars serait pas arrivé par en arrière, puis punché, Petrie. C'est là que Lucic, il joue vraiment salaud, puis... T'sais, lui, il va aller prendre n'importe qui sur la glace et il va aller en frapper un par en arrière.
C'est un joueur qui a perdu son rôle dans la LNH. Avant, c'était un joueur d'énergie. C'était un joueur très, très robuste, très musclé, mais capable de marquer des points. Il y avait des saisons de 50 points. Là, la saison dernière, 6 buts. Cette année, il n'y a pas encore de buts en 16 matchs. 3 passes. C'est un joueur qui trouve plus son rôle, qui panique sur une glace. Ça donne ça, c'est ridicule.
Autre sujet maintenant. Est-ce qu'on connaît l'identité déjà aussitôt dans la saison du prochain récipiendaire du trophée Lady Bing remis au joueur le plus gentilhomme de la Ligue nationale? Mais en tout cas, certainement une candidature pour Jakub Voracek. Jakub Voracek qui est dans une situation où si on voit le jeu vite, en temps réel, on a l'impression qu'il vient de manger un coup de bâton accidentel ou pas d'un adversaire. Et l'arbitre réagit, comme ils le font si souvent, à partir de la réaction puis de l'apparence du geste de pénalité, vient pour décerner un 2. Et Jean-François, c'est toi qui a proposé le sujet. Raconte-nous ce que Voracek fait à partir du moment où il se rend compte que l'adversaire écope d'un 2.
Il va voir l'arbitre, donc, en faisant clairement signe, j'ai jamais reçu de bâton au visage, et l'arbitre renverse sa décision, ce qui est quand même pas, ce qui est quand même assez rare.
Je sais pas si Alain Vigneault t'a content, mais.
Mais c'est exactement le point que je veux amener, et j'aimerais en discuter avec les gens autour de la table. C'est un geste, à mon avis, d'un fair play exceptionnel. Moi, 99,5% des joueurs à qui ça va arriver vont juste dire, bon, ben, l'arbitre en a échappé une, c'est pas plus grave que ça. Jakub Voracek qui, lui, sort de son chemin pour convaincre l'arbitre du contraire. Moi, je suis d'accord.
Écoute, pour un gars qui couvre du soccer, là, hey, écoute. merci. Parce que nous autres, au soccer, on a un gros problème de l'autre bord. C'est que le fakeage, il y en a, puis on en rajoute, puis on fait exprès, puis on essaye d'influencer l'arbitre. Non, moi, je pense que c'est parfait, puis ça va faire en sorte aussi que tu vas avoir moins d'erreurs. Je veux dire, on voit des fois des arbitres qui hésitent à donner des punitions parce que j'ai pas clairement vu. Je veux dire, dans ce cas-ci, c'est. Moi, je suis le type de gars que j'aurais fait la même chose. C'est la patinoire. T'sais, si je fais un geste, puis je laisse sous-entendre que j'ai peut-être été touché, mais finalement, j'ai pas été touché, je vais faire signe. C'est un peu comme au tennis quand la balle touche le haut du filet. Ouais. Tu sais, les gars font des gestes pour dire, regarde, là, c'est pas exprès, puis regarde, c'est du fair play. Moi, je trouve ça vraiment correct, mais je vais parler un petit peu de la situation des bâtons élevés. Parce qu'on en a une autre samedi soir. Gallagher est touché au visage, perd une dent, la bouche ensanglantée. Ça va voir l'arbitre, la bouche en sang, puis il dit, coudonc, on l'a pas vu. OK, c'était 3-0, c'était la fin de la game. Un 4 minutes aurait peut-être pas changé l'allure de ce match-là, mais ça arrive trop souvent sur des situations de bâtons élevés, et souvent quand il y a du sang, l'arbitre t'as rien vu, et alors que un 4 minutes peut changer l'allure d'un match, je trouve que c'est une pénalité où on devrait pouvoir aller à la reprise vidéo, surtout dans une troisième période. Parce que c'est une punition importante. On a décidé que c'était 4 minutes. Ben là, parce que cette année, là, c'est arrivé souvent aux Canadiens, on a vu des joueurs toucher au visage, puis je suis sûr que ça arrive partout dans la ligue. Personne l'a vu, hop, ça passe tout droit, puis...
Pour moi, ça fait partie du jeu, t'sais, c'est un jeu rapide, on peut pas toutes les voir, la même chose, des fois, il y a des dardages.
Jordan Will a été coupé, c'est aussi...
Oui, exactement, il y a quelques semaines.
Ouais, mais tu sais, il y a des coups qui se donnent, c'est même chose pour les 6 pouces.
Mais les reprises vidéo...
La reprise vidéo, moi, pour le jugement d'un arbitre, je suis plutôt en désaccord. Puis, tu sais, pour revenir à l'histoire de Voracek.
Mais c'est pas le jugement, ouais. Il l'a pas vu. Ça va trop vite. Regarde dans la NFL, Alexandre.
Oui, mais tu sais.
Si le ballon touche à terre ou pas, c'est une possession, c'est une bonne réception.
On le fait juste sur les coups, mettons, sur lesquels il y a du sang. Parce que qu'est-ce qu'on fait avec les
coups? Non, mais c'est ça qui est ridicule.
Qu'est-ce qu'on fait avec les dardages? Qu'est-ce qu'on fait avec les coups de bâton? Hey, on peut y aller très, 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 très large à partir. Tu sais, au soccer, par exemple, oui, la reprise vidéo est acceptée. Puis sur les coups très, très violents, genre sur le carton rouge. T'sais, sur les coups là, donnés dans le courant du match de façon normale, elle n'est pas là non
ouais,
plus.
Mais on a décidé en tant que ligue que le coup à la tête était dangereux, le bâton au visage était dangereux, à un tel point où s'il y a du sang, c'est 4 minutes, c'est le double, ben là, il faudrait être capable d'avoir la bonne décision quand ça arrive. En tout cas, selon moi, il n'y a plus d'excuses en 2019 qu'on passe tout droit là-dessus.
À mon avis, je pense du côté d'Alex là-dessus. Je pense qu'il y a une certaine dose d'humanité dans les appels des arbitres. Je peux vivre avec une certaine dose d'erreur. Parce que si c'était une erreur.
Pas là où est rendue la technologie aujourd'hui. Je trouve que c'est inexcusable. Mais... C'est comme de les buts, ont-ils traversé la ligne rouge ou non? Je veux dire, t'es capable d'avoir une puce dans la rondelle.
Ouais, mais ça c'est factuel.
La technologie
c'est pas du temps réel. C'est factuel. Il y a eu un but. Ça, c'est du jugement de l'arbitre en temps réel. C'est là-dessus que je pourrais laisser un peu de lousse.
Non, mais si on est prêt à se battre là pour un poil de tête là sur un hors-jeu pour voir...
C'est un autre débat, ça, le hors-jeu.
Mais moi, je serais bien plus frustré si j'étais en zone défensive, je reçois un coup de bâton au visage et la bouche ensanglantée, puis il marque un but, puis ça compte. Je veux dire, l'hors-jeu, il peut l'avoir manqué, l'arbitre. C'est...
Moi, pour amener à Voracek, moi, je suis pas comme vous autres. Moi, je me serais mordu la lèvre, je me serais roulé en petite boule à terre pour pogner la punition.
Alors, les gars, ça m'a l'air qu'on va pas compléter cette sortie de zone sur un sujet qui provoque l'unanimité. Mais le jour où la Ligue nationale d'hockey va donner un 2 minutes automatique à quiconque là, dans une échauffourée qu'on voit en fin de saison ou d'une série, là, puis qu'on tolère les coups de poing, là, le jour qu'ils vont cesser de tolérer ça, au même titre qu'une rondelle qui s'en va dans les estrades ou qu'un petit peu de sang s'abat babine pour un 2 minutes ou un 4 minutes automatique, là, je vais penser qu'on est prêt à adapter la reprise vidéo, mais je pense pas que ça va arriver tout de suite. Non. Mais je suis d'accord avec toi, Jérémy.
Oui, oui.
Ça fait sera que c'est dans 2 à 2 sur ce sujet-là.
Ça sera dans l'épisode 2044 de sortie de zone.
À suivre. Alors, deux matchs pour le Canadien. Des gars, on va se retrouver après les rencontres contre Boston et Philadelphie. Est-ce qu'il y a de la victoire à l'horizon pour le Canadien cette semaine, Jérémy?
C'est sûr. 4 points sur une possibilité de 6. 4 sur 6.
Non, mais juste jusqu'à jeudi. Là.
Ah, jusqu'à jeudi seulement. Ouais. OK, je pensais cette semaine 2 sur 4.
2 sur 4. OK. Tu me dis pas contre qui. Tu donnes du lousse pas mal.
Je leur donne okay. la possibilité et la chance de gagner celles qu'ils veulent.
Les arguments sur le facteur humain t'ont vraiment. Jean-François?
Défaite à Boston. Contre Boston, victoire contre Philadelphie.
Je donne 3 points.
3 points? Où est-ce qu'ils ramassent le 2? Je veux savoir.
Contre Philadelphie.
Ah, ouais. Ben ça, ils vont ramasser le 2 inattendu contre Boston, puis ils vont ramasser juste un.
Je leur donne 2.
Hey, salut tout le monde, merci d'avoir resté à sortie de zone. On vous invite à continuer de lire la presse et d'écouter les amateurs de sport. Et bonsoir les sportifs, bien sûr, au 98.5 et au réseau Cogeco. On vous souhaite une bonne semaine. À bientôt. Ciao!